Du lundi au vendredi, entre 8h et 9h sur RFJ, format A3.
La spiritualité, les maladies psychiques et les addictions sont-elles proches ou éloignées? Un homme d'église, de n'importe quelle église d'ailleurs, et un médecin ont-ils des choses en commun ou leur dialogue se construisent-ils dans l'opposition? Ce sont quelques-uns des thèmes qui seront abordés dans une conférence donnée demain soir à Delémont.
Les intervenants seront le professeur Jacques Besson, psychiatre et spécialiste en addiction, professeur à l'Université de Lausanne et chef du service de psychiatrie au CHUV à Lausanne, et Jean-Charles Moutet, diacre de Jura Pastoral, accompagnant spirituel et en psychiatrie et responsable du Rancard, lieu d'accueil itinérant.
Nous sommes justement en compagnie du professeur Jacques Besson. Jacques Besson, bonjour.
Bonjour.
Le lien entre la psychiatrie et la spiritualité, est-ce que c'est une évidence selon vous?
Pour moi, c'est très clair, mais ça a passé par des phases très difficiles. Ben, il faut quand même rappeler qu'au début de l'humanité, les chamans étaient à la fois prêtres et médecins. Donc, au début de la médecine de l'esprit, on ne fait pas la différence entre la médecine et la spiritualité. Mais ça a passé par de longs chemins, avec Hippocrate, et puis aux Lumières, et puis avec la psychanalyse, il y a eu un grand divorce. Et pendant longtemps, en tout cas au XXe siècle, il y a eu une méfiance réciproque des églises contre la psychiatrie et de la psychiatrie contre les églises et la spiritualité.
Il y a eu des événements clairs qui ont créé ce divorce.
Alors on peut évoquer quand même la position de Sigmund Freud lui-même, qui a traité la religion d'illusion, qui a dit que c'était une posture infantile de l'humanité, que l'humanité devait accéder à la science, qui était le vrai rapport à la vérité. Donc ça a fait beaucoup de dégâts quand vous êtes psychologue, psychanalyste, psychiatre. Ça a créé un véritable fossé pendant tout le XXe siècle.
Alors, à la même période, ou à peu près, un autre grand penseur parlait des religions comme l'opium du peuple. Vous qui êtes spécialiste en addiction, c'est vraiment, il y a un lien fort entre les deux?
Bah écoutez, c'est vraiment intéressant parce que c'est justement à l'occasion des neurosciences qu'on commence à mieux comprendre quel est l'impact de la spiritualité sur le cerveau. Et justement, il se trouve que il y a du bien ou du plaisir ou une certaine satisfaction à accéder à des positions de cohérence, de clarté, de sérénité. Et dans la méditation profonde ou dans la prière sincère, il y a effectivement une activité opioïde endogène. Donc, on se sent mieux quand on est en paix.
Et lorsqu'on traverse des moments difficiles, quand on est en quête de soi, il y a forcément un moment donné où on va être en quête de sens et de spiritualité.
Oui, parce que, dans le fond, les conflits, ça consomme beaucoup d'énergie, que ce soit les conflits avec l'entourage ou que ce soit les conflits intrapsychiques, quand on ne sait pas où on en est, qu'on hésite quant à son identité, à ses choix fondamentaux, à des carrefours dans la vie, eh bien, il est important d'être au clair, justement, et d'être cohérent. Et là, la spiritualité, elle donne une possibilité de recul, de réflexivité, une forme de sagesse finalement, et on comprend bien aussi qu'avec la dimension collective, souvent il y a un appui de la communauté, de la paroisse, de l'église ou du groupe de méditation, et tout cela contribue à la santé mentale et à une forme de rétablissement.
La spiritualité dans le sens très large du terme, parce que finalement la spiritualité, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, parce que on a tous un rapport très personnel et différent à la spiritualité.
Tout à fait. Alors, du point de vue scientifique, nous avons été obligés de définir les choses très précisément. Et alors, pour nous, dans le domaine des neurosciences, la spiritualité, c'est dans le fond un besoin. D'abord, ça c'est très important. On peut pas s'en passer, comme vous le dites, tout le monde a un rapport à la spiritualité. C'est un besoin. Deuxièmement, c'est un besoin naturel, c'est-à-dire qu'il y a dans le cerveau humain toute une circuiterie et un équipement qui est fait pour interpréter le monde, pour créer du lien, notamment avec les mécanismes d'attachement, mais aussi créer du sens pour pouvoir s'orienter, prendre des décisions, faire des choix éclairés. Donc la spiritualité est un besoin. naturel et universel. Ça apparaît dans toutes les cultures et on est dans l'ordre du biologique. En revanche, en face, vous avez la religion que nous définissons toujours dans les neurosciences comme font la réponse culturelle à ce besoin naturel. Alors la réponse culturelle, elle est évidemment plutôt portée par des groupes structurés avec des institutions, des dogmes, des grands médiateurs, Jésus, Bouddha, Mahomet, portée par des traditions. Et il est clair qu'il y a des religions qui sont plus ou moins spirituelles. On peut aller à l'église de manière assez mécanique. Inversement, vous pouvez avoir des spiritualités qui ne sont pas religieuses. On peut être en spirituel profane. Il y a de nombreux exemples, Luc Ferry et d'autres auteurs qui ont parlé, dans le fond, d'une spiritualité sans Dieu pour accéder à un état où on se dépasse soi-même, on se donne, où il y a de la beauté, de la générosité. On peut s'émerveiller devant la nature, et dans le fond, on peut avoir une spiritualité profane ou religieuse.
Alors, il y a plusieurs études scientifiques qui mettent en évidence que les pratiques religieuses, elles ont un impact sur les problèmes d'addiction, dans la prévention et parfois aussi dans la rémission. On a plein d'exemples de gens qui avaient de gros soucis de toxicomanie, par exemple, et puis qui ont trouvé le salut et retrouvé la santé en ayant des pratiques religieuses intenses.
Oui, alors c'est surtout valable dans le mouvement des alcooliques anonymes et des narcotiques anonymes, parce qu'il faut savoir que c'est un mouvement qui est extraordinairement répandu dans le monde, il y a des millions d'adeptes, et c'est une forme de psychothérapie groupale qui est extrêmement efficace. On a maintenant de la recherche épidémiologique qui montre son efficacité, mais aussi de la recherche sur avec l'imagerie cérébrale qui montre, dans le fond, la diminution du craving, cette envie de consommer de l'alcool et des drogues. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les fondateurs des Alcooliques Anonymes, Bill et le docteur Bob, étaient tous deux alcooliques. Et le docteur Bob était proche de psychanalystes jungiens. Et ses fondateurs étaient tout à fait intéressés par la spiritualité. Et on a appris récemment que Bill, celui qui a écrit les 12 étapes du rétablissement, les avait écrits en état de conscience modifié, en écriture automatique. Donc, il y a une spiritualité très forte dès l'origine dans les Alcooliques Anonymes, mais qui n'est pas religieuse. On s'en remet à une puissance supérieure, quel que soit le nom que nous lui donnons. Et ce rétablissement de la confiance, finalement, dans l'univers, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, est porteur de rétablissement et, de nouveau, donne de la confiance, de la cohérence et dans le fond, diminue l'angoisse fondamentale.